VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Jacques Aristide en votre compagnie. Nous sommes le mercredi 24 octobre 2018. À la une ce soir, aux États-Unis, le président Donald Trump condamne la vague de colis potentiellement explosifs contre des personnalités démocrates, dont Barack Obama et Hillary Clinton. Le prince héritier saoudien qualifie d'incident hideux le meurtre de Jamal Khashoggi.
Les premiers jours, l'Arabie Saoudite avait totalement nié, mais la Turquie a poussé en révélant progressivement des faits.
En Guinée, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre après l'attaque du véhicule du chef de l'opposition. Refus du pouvoir burundais de prendre part au dernier round du dialogue de sortie de crise à Arusha. En RD Congo, une marche de l'opposition contre la machine à voter autorisée à Kinshasa pour vendredi. Et puis, ne manquez pas vos rendez-vous avec l'économie et les sports en fin de journal. Les autorités fédérales américaines ont ouvert des enquêtes ce mercredi sur une vague de colis piégés adressés à des personnalités démocrates, notamment l'ancien président Barack Obama et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton. Le président Donald Trump a lancé un appel à l'unité après l'interception de ces colis suspects. Il affirme que la violence politique n'est pas tolérable aux États-Unis. Une actualité qui continue d'évoluer, bien évidemment, Eric Manirakiza.
Tout à fait, Jacques. Le président des États-Unis dit ceci dans des moments comme celui-ci. Nous devons nous rassembler, a déclaré le président américain. Les actes et les menaces de violence politique n'ont pas leur place aux États-Unis. Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, a dit auparavant que ces actes terrifiants sont ignobles. Leurs responsables devront répondre de leurs actes devant la justice. Mitch McConnell, chef républicain du Sénat, a dénoncé des actes de terrorisme intérieur en remerciant les forces de l'ordre qui protègent les personnalités publiques face à de tels actes inadmissibles. Ces colis suspects potentiellement explosifs visaient l'ancien président Barack Obama, la démocrate Hillary Clinton, l'élu au Congrès et ex-présidente du Comité national du Parti démocrate, Debbie Wasserman Schultz, Eric Holder, ex-ministre de la Justice sous l'administration Obama, John Bremen, ex-directeur de la CIA sous Obama, et le siège de la chaîne CNN. Deux jours auparavant, une bombe artisanale a été retrouvée chez le financier George Soros, autre démocrate. Aucun des colis n'est parvenu à ses destinataires dont la vie n'a pas été mise en danger. Et jusqu'ici, personne n'a revendiqué. Ces colis suspects surviennent en pleine campagne pour les élections du 6 novembre.
Jacques. Eric Manirakiza, vous étiez en direct avec nous. Je vous remercie. Également dans l'actualité, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, qualifie d'incident hideux le meurtre du journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul. S'exprimant lors d'un forum international sur l'investissement à Riyad aujourd'hui, l'homme fort de l'Arabie Saoudite a estimé qu'il n'y aurait pas de rupture des liens avec la Turquie. Il s'agit de ses premières déclarations publiques depuis la disparition le 2 octobre dernier de Jamal Khashoggi. La présidence turque indique que le président Recep Tayyip Erdogan et Mohammed Ben Salman ont discuté ce mercredi des efforts communs à mettre en œuvre pour élucider le meurtre de Khashoggi, un journaliste critique du prince héritier qui vivait depuis un an aux États-Unis et écrivait des chroniques pour le Washington Post. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la Tranche Magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité sur le continent, le gouvernement du Burundi n'a pas fait le déplacement à Arusha en Tanzanie où devaient débuter aujourd'hui des négociations pour sortir le pays de la crise. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
À Arusha, les pourparlers dits de la dernière chance n'auront pas lieu. Ces discussions avaient pour objectif l'organisation d'élections inclusives en 2020 au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a déjà affirmé qu'il ne serait pas candidat. C'est sur son compte Twitter que le gouvernement burundais a annoncé sa non-participation à ces discussions, demandant le report de cette cinquième session. Le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahorwamiyeh, a indiqué à VOA Afrique que Bujumbura a demandé des précisions sur les personnes qui prendront part à cette session, qui devait être celle de la signature de la feuille de route. Il a précisé que les autorités burundaises attendent la réponse du facilitateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien. Seule une vingtaine de leaders de l'opposition et de la société civile sont présents à Arusha, dont Anice Niyongabo, secrétaire général du CNARED. Pour lui, cette absence démontre que le pouvoir burundais n'a jamais voulu négocier pour sortir le Burundi de la crise.
La mairie de Kinshasa a autorisé une marche de l'opposition prévue ce vendredi pour exiger l'abandon de l'utilisation de machines à voter à 2 mois des élections en République démocratique du Congo. C'est du moins ce qu'affirme l'opposant Vital Kamerhe, un des 21 candidats à la présidentielle prévue pour le 23 décembre prochain. D'après lui, l'hôtel de ville de Kinshasa a convoqué ce mercredi une séance de travail pour des dispositions pratiques de sécurisation de la marche. Une réunion des ténors de l'opposition congolaise est annoncée ce mercredi et jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud. La désignation d'un candidat commun au scrutin est l'un des principaux points de l'ordre à l'ordre du jour. En Guinée, l'opposition dénonce une tentative d'assassinat ayant visé hier son chef de file, c'est Lou Dalain Diallo. Elle met en cause le régime du président Alpha Condé. Dans un climat de contestation sociale et politique persistant, des heurts entre manifestants réclamant toute la vérité et forces de l'ordre ont éclaté ce mercredi dans 2 villes du centre du pays, Dalaba, où des barricades ont été adressées, et Labé, fief de l'opposition, où de jeunes manifestants ont attaqué les symboles de l'État et brûlé des pneus. Au moins 30 personnes ont été blessées. L'ONU accuse les forces gouvernementales et les rebelles au Soudan du Sud d'enlèvements et de viols de centaines de femmes et de jeunes filles. C'est ce que révèle une enquête menée cette année. Le point avec Abdourahman Zia.
Un rapport de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, révèle que plusieurs abus ont été commis sur des enfants et des femmes. Le document renvoie dos à dos l'armée régulière et les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar. Selon les Nations Unies, ces abus pourraient tomber dans la catégorie des crimes de guerre. Des filles âgées de 12 ans seulement sont choisies comme épouses pour les militaires. Elles doivent défiler devant eux et les soldats choisissent. Elles sont évidemment violées et soumises à l'esclavage sexuel, peut-on lire dans le document. L'armée gouvernementale a catégoriquement rejeté ces accusations. Un porte-parole de la rébellion a de son côté promis d'enquêter. Le rapport s'appuie sur une enquête menée entre avril et août dernier dans le sud-ouest du pays, en proie à la guerre civile depuis 2013. Le mois dernier, une cour martiale avait lourdement condamné 10 soldats reconnus coupables des viols de 5 travailleuses humanitaires.
Le principal parti d'opposition au Mozambique, la RENAMO, qui accuse le pouvoir de lui avoir volé la victoire dans sa municipalité lors des élections du 10 octobre dernier, affirme que des négociations de paix sont suspendues. L'opposition a déposé un recours en annulation devant la justice. La reprise des pourparlers de paix dépend de ce que va dire la Cour constitutionnelle, indique le porte-parole de la RENAMO, André Maguibiré. Des insurgés d'Anjouan qui avaient pris les armes la semaine dernière contre le président des Comores, Azali Assoumani, sont arrivés à Mayotte où ils ont demandé l'asile politique. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en France évidemment, qui a indiqué que certains insurgés se sont échappés, sont arrivés à Mayotte, île française située à 70 km d'Anjouan. Ils se sont présentés et ont été placés entre les mains des gendarmes. Les forces comoriennes ont repris le contrôle samedi dernier de la médina de Moutsamoudou, capitale de l'île d'Anjouan, dans laquelle des rebelles opposés au président Azali Assoumani étaient retranchés depuis 6 jours. Les affrontements entre les rebelles et l'armée comorienne ont fait 3 morts. En Éthiopie, les parlementaires vont élire le nouveau président du pays demain après la démission de celui qui occupait ce poste essentiellement honorifique. Aucune explication n'a été fournie pour le départ de Mulatu Nsome, mais les observateurs estiment qu'il résulte de négociations en cours entre les 4 partis formant la coalition au pouvoir. L'essentiel du pouvoir est aux mains du Premier ministre, poste occupé par Abiy Ahmed depuis avril dernier. En Égypte, 11 djihadistes présumés ont été tués aujourd'hui lors d'une opération de police dans le désert occidental, près du gouvernorat d'Assiout, dans le centre du pays. Depuis la destitution par l'armée en 2013 du président islamiste élu Mohamed Morsi, des centaines de policiers, de soldats, mais aussi de civils, ont été tués dans des attaques djihadistes dans le Sinaï, mais aussi aux abords du Caire. Et puis la police israélienne a délogé avec vigueur ce mercredi un sit-in de moines chrétiens coptes qui protestaient sur le parvis du Saint-Sépulcre à Jérusalem contre des travaux effectués dans un monastère adjacent dont ils revendiquent la propriété. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Sans plus tarder, un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza que nous retrouvons.
Le Sénégal reçoit des Nations Unies 574 millions de dollars dans le cadre de l'accord du plan cadre pour l'assistance au développement. Dakar va investir dans plusieurs secteurs, la création d'opportunités pour la croissance inclusive et durable, l'amélioration de l'accès des populations les plus vulnérables aux services sociaux de qualité, le renforcement du progrès de la gouvernance inclusive et d'un état de droit. Le gouvernement sud-africain va octroyer à la compagnie aérienne South African Airways près de 350 millions de dollars pour éponger une partie des dettes de la société. Le Trésor sud-africain a révélé que l'entreprise devait rembourser 986 millions de dollars d'ici mars prochain. Ce fardeau empêche de plus en plus le transporteur aérien de poursuivre ses activités. Les fonds destinés au nouveau financement proviendront d'une réserve pour les éventualités et de fonds non dépensés issus d'autres ministères du gouvernement. Ici aux États-Unis, le jackpot record de la loterie américaine Mega Millions est d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. C'est le plus gros pactole jamais gagné dans le monde. Le ticket gagnant de ce mardi a été vendu en Caroline du Sud. L'heureux gagnant peut recevoir un versement sur 29 ans ou toucher immédiatement une somme de 913 millions de dollars. 36 tickets auront également droit au second prix d'un million de dollars chacun et près de 16 millions de tickets ont gagné au moins quelques dollars.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité sportive avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
V-Club est le premier qualifié pour la finale de la Coupe CAF.
Et oui Jacques, l'AS Vita Club a su classer les Égyptiens d'Al Masri 4 buts à 0 au stade des Martyrs. Eddy Emomongoyi a ouvert le score dès la 6e minute de jeu avant de revenir à la charge à la 39e pour son doublé. En seconde période, Jean-Marc Makoussou Moudélé a corsé l'addition à la 75e avant que Moukoko Batezadio n'achève le festival but dans les arrêts de jeu. V-Club connaîtra son adversaire de la finale à l'issue de la deuxième demi-finale retour en cours entre les Nigériens Denimba et le Raja Casablanca au complexe Mohamed V de Casa.
Des violences à déplorer hier en Tunisie.
Au moins 38 policiers ont été blessés dans des heurts avec des supporters lors du match de qualification pour la finale de la Ligue d'Afrique des Champions entre l'Espérance Tunis et Primero Agosto, disputé à Tunis selon le ministère de l'Intérieur. Battu 1-0 en Angola à l'aller, l'Espérance a renversé Primero Agosto 4 buts à 2 à Rades.
Et qu'en est-il de la Ligue des Champions en Europe, Yacouba ?
Les Belges du FC Bruges ont fait un match nul 1-1 lors de la réception de l'AS Monaco du nouveau coach Thierry Henry. Match nul aussi, 2-2 entre Tottenham de l'Ivoirien Serge Aurier et le PSV. Au Camp Nou, le Barça fera sans son maître à jouer Lionel Messi. Dortmund reçoit l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey. Liverpool de Sadio Mané et Mohamed Salah, mais sans le Guinéen Naby Keïta blessé, affronte l'Étoile Rouge de Belgrade à Anfield. Le choc de la soirée, c'est sans doute le match du Parc des Princes entre le PSG et Naples, avec les retrouvailles entre Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du PSG, d'une part, et Edinson Cavani, l'attaquant parisien en panne de but qui fera lui aussi face à ses anciens coéquipiers italiens. À suivre aussi Lokomotiv Moscou, FC Porto.
Pour terminer, NBA, championnat de basket nord-américain.
Blake Griffin, auteur de 50 points, a permis aux Detroit Pistons, vainqueur des Philadelphia Sixers sur le fil 133-132 après prolongation, de rester invaincu depuis le début de la saison, malgré les 33 points du Camerounais Joel Embiid. Dans les deux autres rencontres de la soirée, la Nouvelle-Orléans et Denver sont restés invaincus, tout comme Detroit.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans Le Monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Je vous remercie pour votre fidélité à VOA Afrique. Au Congo-Brazzaville, les populations qui sont revenues de guerre dans le Poule tentent de se donner un nouveau destin. C'est dans une savane à perte de vue où poussent de gros arbustes que, par exemple, les déplacés de Missié-Missié dans le district de Mindouli ont choisi d'ouvrir avec des outils aratoires 7 km de route dans un sol sablonneux. Grâce aux vivres financés par le gouvernement américain, ces retournés de guerre du Poule veulent rapidement rendre accessible leur bassin de production au marché local. Le reportage de notre correspondant Arsène Séverin qui s'est rendu sur les lieux.
Ce bruit de scie à moteur pour couper les arbres rompt avec le silence lugubre qu'a imposé pendant 2 ans le conflit armé à Missié-Missié dans le district de Mindouli. Ici, les populations qui avaient fui commencent à revenir et il faut organiser une nouvelle vie. Le programme alimentaire mondial qui a l'habitude de leur fournir de la nourriture fait une nouvelle offre. Jean-Martin Bauer est le représentant du PAM au Congo.
Et les gens sont rémunérés en vivres. Ils reçoivent environ l'équivalent de 360 francs CFA par jour, par personne dans leur ménage, pour travailler sur ce site. Alors ils déblayent, ils désherbent, ils dessouchent. On a élargi le passage ici. Vous voyez maintenant, ça fait 4 mètres de large. Donc les véhicules peuvent passer là où le passage était impossible avant. Et donc ça désenclave environ 1000 personnes sur cet axe-là. Ça permettra l'évacuation des produits agricoles, l'accès aux hôpitaux, l'accès aux services sociaux. On pense que c'est un grand progrès pour la zone. Mais là où vous voyez ici, il y avait la forêt. Et maintenant, on a ce passage.
Pour Antoinette Ndigandiodo, ministre en charge de l'action humanitaire, c'est important d'être d'accord de ne plus se faire nourrir gratuitement.
Ce que nous faisons maintenant, c'est le relèvement, la réhabilitation des moyens de vie. Et la route est utile pour cette population pour aller de leur lieu de production vers là où ils peuvent vendre. Au lieu de continuer à donner l'assistance alimentaire gratuite, nous leur donnons l'assistance alimentaire contre le travail qu'ils vont faire.
Une logique accepte volontiers Philippe Mabouaka, chef du village Missié-Missié, mais aussi à la tête de la communauté des travailleurs sur cette nouvelle piste agricole.
Vraiment plus de contour. Et ça va nous servir à faire rentrer les véhicules commerciaux pour que ceux qui sont ici soient bien occupés. Produire les haricots, les gombos, les aubergines, toutes choses qu'on fait à Brazzaville, même européennes, on les fait vraiment. Les maniocs, les arachides, surtout que les haricots, hein, à des gens qui vont à 300 sacs, 400 sacs. Mais donc, il se posait un problème de déplacement, parce que vous comprenez qu'une femme, quand elle quitte Amokongouto pour venir à Missié-Missié, il faut qu'elle fasse au moins 5 heures de temps. Mais actuellement, maintenant, c'est 1 heure que tu es à Missié-Missié. Donc, on est très content.
L'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, a fait la visite de terrain et sait maintenant comment est utilisé l'argent du contribuable américain dans le pool.
Maintenant, je crois que c'est un très bon projet parce que les membres de la communauté, les jeunes, ils travaillent, ils reçoivent de la nourriture, mais aussi ils ont l'opportunité de faire des choses qui est bon pour la communauté. C'est un projet que tout le monde gagne. C'est gagne-gagne. Et je suis très fier que les États-Unis peuvent jouer un rôle avec des membres de la communauté pour le faire.
En 2017, les autorités avaient lancé un appel à fonds de 23 millions de dollars pour financer le programme de relèvement précoce. L'argent n'arrive toujours pas et il faut bien commencer avec le peu qui existe. De retour de Missié-Missié dans le Poule à Mindouli, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Comment attirer les investisseurs en Afrique en général et en Mauritanie en particulier? C'est pour répondre à cette interrogation qu'une jeune entrepreneure mauritanienne a décidé de créer Hop Africa, une plateforme d'affaires très active dans le pays. John Linden, notre envoyé spécial à Nouakchott, a pris part à l'une de ses rencontres. Reportage.
Dans un hôtel de la capitale mauritanienne, un groupe d'hommes et de femmes d'affaires sont réunis pour parler d'opportunités d'investissement. À l'initiative de cette rencontre business to business, Hop Africa, une plateforme créée par cette femme, Maro Adia Diagana.
Ops Africa, c'est quoi? C'est une plateforme panafricaine de mise en relation d'affaires et de partenariat. Nos objectifs tournent autour de l'organisation des manifestations économiques à échelle nationale et internationale, l'organisation aussi des missions d'affaires.
Ce soir-là, c'est une délégation d'opérateurs économiques français qui est à l'honneur. Laurent-Pierre Castagnera, qui dirige une entreprise d'import-export et commercialise des produits européens sur le continent, justifie sa présence ici.
Après certaines expériences au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Gabon, j'avais envie de découvrir le marché mauritanien, qui est un marché qui, ces dernières années, semble être un marché qui se dynamise, qui évolue, et il faut être présent. Et donc c'est la raison pour laquelle, avec le club que je représente ce soir, qui est le club le CBSOA, le club des entreprises Bordeaux-Afrique, nous avons souhaité en fait monter une mission pour rencontrer les entreprises mauritaniennes et trouver de nouveaux partenaires afin de développer nos business respectifs.
Et pour faciliter encore plus les relations d'affaires et de partenariat entre investisseurs étrangers et africains, la jeune entreprise mauritanienne nourrit des ambitions continentales.
On veut voir grandir ou naître dans chaque pays africain, que ce soit des pays francophones, anglophones ou lusophones, une filiale de Op Africa ou une représentation d'Op Africa qui permettra à ces entreprises de ces pays-là de venir adhérer à la plateforme et surtout de voir dans quelle mesure ils pourront tisser des partenariats avec d'autres entreprises de la plateforme.
Pour la promotrice de Op Africa, mettre ensemble les entreprises africaines sur une même plateforme permettra également à celle-ci d'avoir plus d'informations, plus de visibilité et des partenaires indispensables à leur développement. John Linden, VOA Afrique, Nouakchott.
Cette semaine, dans Washington Forum, gros plan sur la réélection du président camerounais Paul Biya. Âgé de 85 ans, dont près de 36 au pouvoir, il a été reconduit pour un mandat de 7 ans avec plus de 71% des suffrages. Et des résultats contestés par plusieurs partis d'opposition qui ont dénoncé des fraudes, mais ont vu leur recours rejeté par le Conseil constitutionnel. Cette présidentielle a toutefois suscité un intérêt sans précédent auprès d'une grande partie de la population. Au sortir de ces élections, et qu'attendre de ce mandat alors que le président Biya a déjà passé plusieurs décennies au pouvoir? Morgan Gaillac en votre compagnie, je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel.
Et maintenant, cap sur l'Ouganda pour aller à la rencontre de Joanne Nalubega. Elle a grandi dans un orphelinat et souffrait régulièrement de paludisme, ce qui l'a justement motivée à créer une gamme de savons pour aider à lutter contre la maladie transmise par les moustiques. Son savon, elle le vend à un prix majoré dans des hôtels haut de gamme pour pouvoir subventionner le produit pour ceux de sa communauté locale qui en a le plus besoin. Blanche Sanou nous en dit davantage.
À Pigi, dans un district du centre de l'Ouganda, John se rend dans son atelier. Elle y prépare les ingrédients nécessaires pour la fabrication de ses savons. John Nalubega, la fondatrice de Ouganic, nous donne plus de détails.
Nous mélangeons de l'huile d'olive, de l'huile de coco et puis d'autres huiles. Et enfin, on ajoute l'élément répulsif. Nous utilisons aussi de la citronnelle, de la lavande dans la composition du savon.
L'entreprise Ouganic a lancé ses activités grâce au soutien de l'Académie Social Innovation, une organisation basée à Pigi qui éduque les orphelins, les enfants des rues, les réfugiés et autres jeunes défavorisés. En plus de cela, John a su profiter de sa proximité avec la communauté locale pour connaître leurs besoins réels dans la lutte contre le paludisme. John Nalubega, fondatrice de Ouganic.
J'ai constaté qu'il y avait des solutions sur le marché, comme les aérosols et tout le reste, mais elles étaient plus destinées aux touristes. Pourtant, les gens qui en ont le plus besoin ne sont pas pris en compte. Alors je me suis dit que c'est dans cette direction qu'il fallait aller. Nous recherchions un produit auquel ils peuvent facilement accéder et un produit que chaque ménage pouvait utiliser. C'est pourquoi nous avons fabriqué un savon.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a l'un des taux de transmission du paludisme le plus élevé au monde. Le paludisme représente également 40% des visites dans les centres de consultation externes, dans les établissements de santé publique. Pour les habitants de Pigi, l'utilisation du savon de Ouganik est un vrai soulagement, comme le témoigne Teddy Namirembe.
Avant de commencer à utiliser ce savon, mes enfants étaient atteints de paludisme. Le matin, ils avaient plusieurs marques de morsures causées par des piqûres de moustiques. Mais maintenant, ils ne sont plus mordus. Ils n'ont pas de marques sur leurs bras. Je ne me fatigue plus pour acheter des médicaments. Ce savon m'a beaucoup aidé.
John a reçu l'an dernier 5 000 dollars du programme d'entrepreneuriat Tolu et Lumelu. Cette année, elle est candidate au prix Anzisha, un prix décerné aux jeunes entrepreneurs africains. Son objectif, réduire de 20% le taux du paludisme en Ouganda au cours des 5 prochaines années.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Revenons maintenant sur cette actualité qui continue d'évoluer malgré la reconnaissance par l'Arabie Saoudite de la mort du journaliste Jamal Khashoggi dans les locaux de son consulat à Istanbul et l'arrestation de 18 personnes. L'affaire est loin de connaître son épilogue. Aujourd'hui, Ankara a demandé à ce que les personnes incriminées soient jugées en Turquie. Sur le rôle joué par ce pays dans l'internationalisation de cette affaire, Abdurrahman Zia a joint à Paris le professeur turc à la retraite, Hargmed İnsel.
La Turquie aurait pu être très très intransigeante dès le départ. Et je crois que Tayyip Erdogan a voulu à la fois ne pas couvrir cette affaire, mais en même temps laisser une marge de négociation avec l'Arabie Saoudite. Du coup, il joue la carte d'une révélation goutte par goutte, compte à compte, de ce que dispose la police turque comme information.
La Turquie veut quand même que les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête soient jugées en Turquie. Vous pensez que Riyad va l'accepter?
Non, pas du tout. Je crois que c'est un vœu pieux. D'ailleurs, je suis sûr que si jamais Riyad décidait d'envoyer les personnes incriminées, la Turquie aurait été encore plus gênée. Là, c'est une demande qui est faite par pure forme, tout en sachant que ça ne va pas aboutir.
Quels sont les moyens de pression dont dispose Ankara? Après tout, l'Arabie Saoudite est très puissante dans le monde musulman et également sur le plan financier.
La Turquie, aujourd'hui, joue sur la crédibilité de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, cette stratégie de la Turquie a poussé l'Arabie Saoudite à reconnaître les faits, puisque, rappelez-vous, les premiers jours, l'Arabie Saoudite avait totalement nié et avait même annoncé que Adnan Khashoggi était sorti libre du bâtiment. Mais la Turquie a poussé, en révélant progressivement des faits, a poussé les pays occidentaux à prendre une position beaucoup plus exigeante vis-à-vis de l'Arabie Saoudite.
Et justement, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé du retrait de visa des personnes incriminées. Quel impact cette mesure de retrait des visas peut avoir face aux intérêts financiers?
Aucun. Le retrait de visa n'a aucun impact puisque nous savons que maintenant ces 18 personnes ne quitteront jamais l'Arabie Saoudite parce qu'ils risquent d'être arrêtés n'importe où. Mais par contre, par exemple, le retrait des participations au forum organisé à l'Arabie Saoudite a eu des impacts manifestement. La décision allemande de refuser les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite probablement va créer une pression d'opinion publique qui fait que les livraisons d'armes vers l'Arabie Saoudite vont être plus difficiles. Et je crois que tous les pays en question dans les pays occidentaux réfléchiront encore plus aujourd'hui.
On écoutait Hargmed İnsel, professeur à la retraite de l'université de Galatasaray en Turquie. Il était en ligne de Paris.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
La mise en onde a été assurée par Sheikh Tsero. C'était notre ami Sidrak Flanklin à la technique. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.